Alors, le cours, il est les Refouas Shlema de
Camille Batzora.
Camille Batzora. Les Le Nishmat. Non. Les Refouas
Sylviane. Sylviane. Aziza Batnejma.
Sylviane, Aziza Batnejma. Et
Clémence Rachmona.
Rachmona.
Batnejma.
Batnejma. Et évidemment, les Refouas Shlema de Kol Cholé Amo Israël.
Amen.
On est bon. Yofi. Tov, eh bien, Boker Tov, les Koulam, on ouvre une nouvelle série d'études. On a terminé la semaine dernière, après 3 ans d'études, on a terminé Pirkei Avot, Maseret Avot. Et Baruch HaShem, que Kadosh Baruch Hu nous a aidé à commencer et à finir une étude. Et donc, nous ouvrons une nouvelle étude aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais Bezrat HaShem, on est là pour 120 ans encore, donc on a le temps d'étudier un peu.
Même pas plus.
Un peu plus encore. Et donc, on ouvre une nouvelle étude et je suis très heureux de pouvoir ouvrir le Rav Kook ici avec vous tous les mardis matin. Donc, on ouvre le livre Oroth du Rav Kook. Alors, il y a besoin de quelques petites introductions avant de se lancer dans le vif du sujet. Et la première d'entre elles, c'est quand on s'attaque à un personnage qui a écrit beaucoup, qui a laissé beaucoup de Torah. Il faut toujours se poser la question, parce que les rabbanim, plus ils sont grands, plus ils écrivent sur plein de choses, parce que plus leur Torah est grande, plus elle couvre, eh bien, des sujets énormes de la Torah. Et donc, il faut toujours se poser la question, quelle est la masterpiece du rabbin? Quel est le livre, parmi tous les livres qu'il a écrits, c'est quoi le livre qui résume le mieux sa pensée? Et c'est un vrai défi, parce qu'on a des rabbanim, Baruch HaShem, qui ont écrit sur plein, plein, plein de sujets divers et variés. Quel est leur truc? OK? Quand on prend le Rambam, il a écrit sur tout. Il y a Hazaka, c'est un commentaire de la Halakha sur toute la Torah. Il n'empêche que le Rambam, si tu veux connaître et découvrir le Rambam en profondeur, eh ben, t'as pas le choix que d'étudier Moreh HaNevuchim. Le guide des égarés, c'est la masterpiece du Rambam. Quand on utilise et qu'on commence à rentrer dans la Torah du Rav Kook, eh bien, il faut se poser la question, quel est son livre central? Parce qu'il y a énormément de livres du Rav Kook, qui sont des commentaires du Talmud, qui sont des commentaires de la Halakha, qui sont des commentaires des Haggadot du Talmud, qui sont des explications sur ce que c'est que la Kedusha, sur ce que c'est que le Kodesh. Quel est le livre central du Rav? Eh bien, le livre central du Rav Kook, c'est Oroth. C'est Oroth. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les autres, bien évidemment. Il faut, et d'ailleurs, il faudrait même ne pas commencer par le livre Oroth si on veut se lancer dans le Rav Kook. Il y a des livres qui sont beaucoup plus faciles d'accès que, si on veut commencer tout seul, j'entends, il y a des livres qui sont beaucoup plus faciles d'accès que Oroth. Par exemple, au niveau de la langue, ne serait-ce que de la langue, si on veut s'y mettre tout seul, soit on commence Igrot Aveia, c'est-à-dire la correspondance du Rav Kook, les lettres qu'il envoie à différentes personnes, qui sont écrites dans un hébreu beaucoup plus accessible, ou alors Ma'amré Aveia, c'est-à-dire les drachotes que le Rav Kook a données au Tzibour, qui ont été remises par écrit après. Donc, en général, comme il parlait au Tzibour, eh bien, c'était un langage qui était plus accessible. Le livre de Oroth est un livre caché, difficile à comprendre, pas tant à cause des mots, mais à cause des mots. C'est-à-dire pas tant à cause de ce qu'il veut nous enseigner, mais parce que des fois c'est un langage qui est extrêmement lyrique, et donc bah, il va falloir qu'on essaye de naviguer dans tout cela. Mais ça d'ailleurs, je voudrais simplement terminer sur la traduction de l'introduction pour dire une phrase de « Mais c'est qui le Rav Kook ?» Là, on va étudier ensemble. Alors, je vous invite, si vous voulez, aller voir un petit peu plus en profondeur des petites choses qui peuvent nous apprendre son identité. Il y a une série de cours que j'ai fait de 5 minutes sur la chaîne Israël Torah, sur des enseignements comme ça du Rav Kook, de 5 minutes, pour essayer de comprendre un petit peu son message de manière générale. Et les premières vidéos, c'est une véritable biographie du Rav, qui il était, quelle a été sa révolution, parce que le Rav Kook, c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution? Eh bien, parce que le Rav vit dans une époque charnière. Et ça, il faut bien, bien, bien le comprendre. Il y a 300 ans, le rabbin qui se levait n'avait rien de différent au rabbin qui se levait il y a 350 ans. C'était les mêmes problèmes dans la communauté, c'était les mêmes questions, c'était la même ambiance. Shabbat, Kashrout, Tarat HaMishpacha, comment est-ce qu'on s'arrange avec le Cosaque qui vient faire un pogrom le dimanche? Plus ou moins, c'était les mêmes questions. Le public n'a pas changé entre il y a 350 ans et il y a 300 ans, le goy non plus. Le Rav Kook vit dans une génération où tout change. Tout change. Il va naître au moment de la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, c'est évidemment un chamboulement dans le monde. 1860, ça commence déjà en 1840, mais je veux dire, c'est le moment où le monde début des années 1800 et le monde début des années 1900 n'a rien à voir, ne serait-ce qu'au niveau visuel. Tu regardes les rues de Paris en 1800, les rues de Paris en 1900, c'est le jour de la vie, je ne te parle même pas des rues de Paris en 2000. C'est-à-dire qu'il y a une véritable révolution qui se met en place dans le monde. Mais aussi au niveau du peuple juif, il y a une véritable révolution. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au moment où le Rav Kook naît, alors je vais dire des chiffres, je ne sais pas d'où je les sors, hein, ce n'est pas des vrais chiffres, mais ils représentent une mégama, une identité générale. Il y a à peu près 90% du peuple juif au moment où le Rav Kook naît dans les années 1860, il y a à peu près 90% du peuple juif qui est religieux. Au moment où le Rav Kook meurt en 1935, c'est près de 20% du peuple juif qui est religieux. C'est-à-dire qu'il y a eu un abandon de la Torah fantastique dans cette période-là. Et ce n'est pas un mec et demi ou deux qui... Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas fait la Torah. Ça a toujours existé. Mais là, on parle d'un changement tellement drastique que ça ne peut pas être l'œuvre du hasard. Il est évident qu'il y a ici une main dirigée par HaKadosh Baruch Hu. Et le Rav Kook, eh bien, son grand, grand travail dans le livre de Horot va être d'essayer de comprendre à quoi ça sert. À quoi ça sert le projet divin que le peuple juif abandonne la Torah. Parce que c'est sûr que ça doit servir le projet divin. Ça ne peut pas être un événement qui touche l'âme Israël d'une telle ampleur et qui n'a pas de véritable sens dans le dévoilement divin. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, et c'est peut-être la plus importante, c'est le nationalisme juif. Pendant 2000 ans, on était en exil et on s'est comporté comme des communautés éparses. Le Rav Kook va vivre le retour à l'identité de la nation. Il naît à l'époque où eh bien, son maître, par exemple, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, fait partie de Chovevei Tzion, Dorshei Tzion, le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher. On commence à parler, le Rav Chaya Kalai, on commence à parler d'un retour à Sion. Et évidemment, le Rav Kook va être le témoin du premier congrès sioniste. Il va être témoin de l'organisation sioniste mondiale. Il va être le témoin de l'affaire Dreyfus. Il va être le témoin de la résurrection nationale. Et il va devenir le premier grand rabbin de Eretz Israël en 1921, sous le mandat britannique. Bekitsour, vous comprenez qu'il vit dans cette période charnière révolutionnaire du retour d'Israël en tant que nation. Alors malheureusement, il ne vivra pas la création de l'État d'Israël, il meurt en 1935, mais il va essayer de nous donner ses orot, ses lumières, sur eh bien, cette révolution de notre monde. Ok ? Voilà le projet. Évidemment, donc, le livre de Horoth va parler de ça, mais tous les livres qui vont autour, qu'on appelle dans le langage des yeshivot qui suivent la pensée du Rav Kook, on les appelle le chasse à Lavan, le Talmud blanc, parce que les livres sont édités en blanc. Mais il y en a plein, par exemple, Horoth à Torah, Horoth à Tshuva, Horoth à Kodesh, plein de Horoth quelque chose. Ce sont des lumières à chaque fois qui veulent justement, dans ce monde qui évolue en grand, eh bien, il faut redonner à toutes ces dimensions-là leur grandeur. Horoth HaTorah nous explique la dimension grande de la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah ? Pas simplement ce qui m'apprend à faire le Shabbat, mais en grand, qu'est-ce que ça veut dire faire le Shabbat ? Horoth HaTeshuvah, qu'est-ce que c'est la grande Teshuvah ? Horoth HaKodesh, comment est-ce que le Kodesh, maintenant, eh bien, s'inscrit dans un véritable dévoilement au quotidien de Ribono Shel Olam ? Bekitsour, tout un programme. C'est-à-dire ? Donc, c'est prévu là que pendant 2-3 semaines, on termine le livre Horoth. Ensuite, dans un mois, on fasse Horoth HaTorah. Ensuite, un mois plus tard, Horoth HaKodesh. D'ici la fin de l'année, on a terminé tout l'œuvre du Rav Kook sans problème. Ça a l'air.
Tu n'as pas dit de quelle année ?
Oui, le cours donc aussi, l'Elou Nishmat.
Moshe, Metsaoud, Ben Diamant.
Moshe, Metsaoud, Ben Diamant.
Et Refoua Shlema, Esther Bat Aïta.
Et la Refoua de Esther Bat
Aïta. Et de Emma Jocelyne Bat Jacqueline.
Et de Emma Jocelyne Bat Jacqueline. Alors c'est parti. On rentre maintenant à l'introduction. Donc, vous avez les livres. C'est très important de suivre dans le texte. L'introduction commence par Bezrat Hashem. L'introduction n'est pas écrite par le Rav Kook, puisque le Rav avait cette fâcheuse tendance, comme beaucoup de grands, d'avoir une écriture absolument pas ordonnée. Le Rav, dès qu'il avait un truc à dire, il écrivait. Et le travail de mise en page de son enseignement va être donné à son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, et son grand élève, le Rav David HaKohen, le Rav HaNazir. Donc certains des livres ont été mis en page par le Rav Tzvi Yehuda et d'autres par le Rav HaNazir. En l'occurrence, ici, le livre Oroth, c'est le Rav Tzvi Yehuda, son fils, qui va le mettre en forme. Et donc, c'est lui, le Rav Tzvi Yehuda, qui écrit l'introduction. Alors, allons-y. Shefa. Kodesh HaKodashim shel Sefer HaOroth Azeh. Déjà tout de suite, eh bien, il va falloir qu'on essaie de comprendre. Chaque mot ici est important. Le Rav Tzvi Yehuda appelle ce livre Kodesh HaKodashim. Vous allez me dire, bah, ça va, c'est son fils, c'est normal. Sauf que non. Pourquoi c'est pas normal? Parce que il y a un des livres du Rav Kook, j'ai dit, qui s'appelle Oroth HaKodesh. Et on a demandé au Rav Tzvi Yehuda pourquoi est-ce que le livre Oroth HaKodesh s'appelle Oroth HaKodesh? Et que celui-là, il a décidé de l'appeler Oroth, enfin, Sefer Kodesh HaKodashim. Le Rav Tzvi Yehuda répond, parce que Oroth HaKodesh parle du Kodesh, et Oroth parle du Kodesh HaKodashim. Donc il fait très bien la différence dans les œuvres de son père, ce qui est Kodesh et ce qui est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qui s'appelle Kodesh HaKodashim, les amis? Il faut savoir que dans. Oui.
Situé dans son œuvre et dans sa vie, il y a une progression dans sa pensée. Est-ce que ça, c'est, ça résume tout ce qu'il a.
Alors, est-ce qu'il y a une progression dans sa pensée? D'abord, évidemment. C'est-à-dire que l'homme grandit et mûrit, et évidemment, les livres qu'il écrit quand il est jeune n'ont pas la même profondeur que ceux qu'il va écrire plus tard. Quoique, on est toujours impressionné de voir la profondeur déjà des textes, les premiers textes. Il écrit un commentaire de la Torah qui s'appelle Midbar Shur, et quand on lit Midbar Shur, on ne se rend pas compte qu'il a à peine 20 ans. Quand on lit son commentaire de Enaya, le commentaire qu'il écrit sur les Haggadot du Chasse, il a à peine 23 ans, c'est ahurissant. Mais effectivement, le livre de Oroth, de Oroth HaKodesh, sont des livres qu'il va écrire beaucoup plus tard, qui vont de pair avec d'autres livres qu'il écrira, des livres de Halakha. Il ne faut même pas oublier que le Rav Kook va commencer une œuvre absolument incroyable qui s'appelle Halakha Berura, dans lequel il prend toutes les sougiotes du Talmud et les ramène jusqu'à la Halakha. C'est une œuvre qui commence de son vivant, il ne le terminera pas de son vivant, ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire ? Donc oui, il y a une progression évidemment, mais même dans les premières œuvres, eh bien, on peut voir la grandeur du Rav. Donc, Kodesh HaKodashim. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque juive. Depuis la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier livre du Rabbi Nishai. Ça fait beaucoup de livres. Il n'y en a pas beaucoup du tout qui ont été appelés par d'autres rabbins de la tradition rabbinique Kodesh HaKodashim. À dire vrai, il n'y en a eu que trois. Dans, je ne sais pas combien, il y a plus de 200 000 livres aujourd'hui dans toute la bibliothèque juive, il n'y en a que trois qui ont été appelés par d'autres rabbanim Kodesh HaKodashim. Alors le premier d'entre eux c'est non, c'est le dernier d'entre eux. Le premier c'est Shir HaShirim. Shir HaShirim, écrit par Shlomo HaMelech, a été appelé Kodesh HaKodashim par Rabbi Akiva dans le Talmud, lorsqu'on nous dit Kol HaShirim Kodesh Aval Shir HaShirim Kodesh HaKodashim. Donc Shir HaShirim c'est Kodesh HaKodashim. Le deuxième livre qui a été appelé Kodesh HaKodashim, c'est le Sefer HaKuzari, exactement, qui a été appelé comme cela par Baal Tzot HaChoshen, par Maharad Anzim et par le Gaon de Vilna, Kodesh HaKodashim. Et le troisième, c'est le livre Oroth, ici, qui est appelé par le Rav Tzvi Yehuda, Kodesh HaKodashim. Alors, quel est le lien entre ces trois livres et qu'est-ce que c'est Kodesh HaKodashim? Eh bien, vous le savez très bien, le Kodesh HaKodashim, d'abord et avant tout, c'est un endroit. c'est un endroit dans le Beth Amikdash, et cet endroit-là a une particularité, c'est que dedans se trouve, résident de père, la Torah. La Torah, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. Donc il y a la Torah, mais il y a également les Kérouvim. Les Kérouvim, ce sont des statues en or. C'est quoi? C'est Kodesh ou c'est Chol? Une statue en or. C'est Chol. Ce qui veut dire que la définition du Kodesh à Kodeshim, c'est là où résident deux compères, le Kodesh et le Chol. Et ça, ça va être fondamental de comprendre cette dimension-là. Shir HaShirim nous dépeint la relation d'amour entre un homme et une femme, entre un homme et sa femme. Nos sages vont nous expliquer qu'en fait, c'est la relation d'amour qui unit le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, l'âme Israël. Une relation d'amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh ou c'est Chol? Ah, c'est Kodesh, mais c'est aussi. C'est aussi. Chol. Donc c'est Kodesh à Kodeshim. Le livre du Kuzari vient nous expliquer la dimension divine qu'il y a dans l'histoire. Donc la dimension divine, Kodesh, qui se trouve dans l'histoire, c'est Chol, l'histoire des hommes. Chol. Donc Kodesh à Kodesh. Eh bien, le livre de Oroth va nous expliquer la dimension de Kodesh qui se trouve dans la, c'est-à-dire la réalisation des prophéties, qui se trouve dans le sionisme laïque, Chol. Comment est-ce que le sionisme laïque, c'est la Géoula? Ok? Donc voilà le propos du livre. Donc, Shefa Kodesh HaKodashim, Shel Sefer Aorot Azeh, et donc ce livre Aorot est composé de plusieurs parties. Aorot, mais au fait, c'est quoi ces différentes parties? Aorot Eretz Israël, qui va nous expliquer dans un premier temps, en 8 paragraphes, quelle est la dimension de Eretz Israël, de la terre d'Israël, sur laquelle doit se dévoiler la Géoula. Aorot Amilchama, quelle est la dimension du concept de guerre et des guerres qu'il vit, le Rav Kook vit la Première Guerre mondiale. Aorot Israël ou Triato, c'est-à-dire la dimension, j'allais dire abstraite, de ce que représente la résurrection nationale d'Israël. Et enfin, Aorot Atechia, qui est la réalisation concrète de cette résurrection. D'accord ? Sheofia mitoch pachet tahoro shel haKohen haGadol. Ce livre est sorti de des pachim, vous savez, les petits ustensiles, c'est-à-dire les ustensiles qui sont proches de l'homme, qui venaient du Kohen haGadol. Misé à Kohen haGadol, c'est son père. C'est comme ça qu'il appelle son père. Ils sont Kohanim, la famille Cook, et donc il dit, ça, c'est sorti des petits papiers du grand Kohen, du Kohen haGadol. Amor, Avi, Mori et Arav Zatzal. Donc, il parle de son papa. Bishnat Tarpa. Donc, quand est-ce qu'il a sorti le livre pour la première fois, le livre Aorot? En 1921. C'est quoi pour le Rav Kook 1921? Im Reshit Bo, Bidvar Hashem, Lechazarat Shrinato, Rekonenut Malchuto, Yerushalayim. Ce sont des phrases compliquées pour ceux qui sont à l'Ulpan. Alors, je vais essayer de traduire. 1921 pour le Rav Kook, c'est le début de son retour par l'appel de Dieu et le retour de la présence divine et de la royauté divine à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 1921, c'est l'année où le Rav Kook rentre à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Rentre, où est-ce qu'il était? Il était takua, il était bloqué en Europe. Le Rav Kook monte en Israël au début du XXe siècle. Il va s'installer à Yafo, devient le Rav de Yafo et des Moshavot, des différents villages sur le littoral. Et en 1913, il est invité en tant que, vous savez, on fait un grand congrès, un grand gala, on invite une personnalité. Alors il est invité en tant qu'invité d'honneur au congrès de la Agudat Israël, l'organisation qui rassemble les rabbins du monde. Il est invité par le Chafetz Chaim, pour venir parler au congrès. Le grand problème mis en place dans ce congrès-là, c'est l'assimilation. Et donc, il vient proposer le regard de Eretz Israël comme étant le pitaron de l'assimilation. Venez à la maison. Hein?
Ça va, c'est-à-dire la langue. Quelle langue je vais parler?
Pas seulement la langue, tu as raison, il y a le débat de la langue va se mettre en place, mais Bichlal, quand tu regardes ce qui se passe comme assimilation en Chutz La'aretz, et quand tu regardes ce qui se passe comme assimilation en Eretz Israël, tu comprends tout de suite que ici, il n'y a pas d'assimilation. C'est-à-dire, même s'il faut faire très attention aux différentes tentatives de la Haute Cour de justice de vouloir reconnaître les conversions n'importe comment dans notre peuple extraordinaire. Donc il faut d'un côté se battre contre ces décisions qui sont absolument révoltantes, parce que ce n'est absolument pas à la Haute Cour de justice mais d'après la Haïl, il y avait tellement de moyens, eh bien, de ne pas être tellement marmir et de pouvoir justement faciliter les conversions, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné...
Les Français,
non, le rabbinat, il n'a pas peur de ne pas maîtriser, le rabbinat, il a une fâcheuse tendance à toujours la retenir quand il peut. Et c'est bien malheureux. Et tu sais très bien que c'est dans tous les domaines, pas que dans le domaine de la conversion. Et c'est vraiment dommage. Hein?
Des fraises.
C'est-à-dire le avi avot atuma, tu parles. Oui. Tu parles de cet aliment qui est bien pire que le jambon mélangé avec de la crème. Et évidemment. Évidemment. Bien sûr. La fraise. L'ennemi public du judaïsme. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait fait un fruit si bon si c'était si interdit? Est-ce qu'il est sadique ou tsadique? C'est la grande question.
Le cochon.
Ah, c'est vrai qu'il y en a qui disent que tout est bon dans le cochon. Et elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas. Akadosh Baruch Hu n'a pas interdit les fruits. Mais bizarre, il n'y a pas de mané cache-route pour les fruits.
Les fruits de mer.
Les fruits de mer, oui. Top, non. Donc, le Rav Kook parle en Europe pour le congrès de la Agudat Israël, et puis il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Bah, Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale éclate, il ne peut plus rentrer. Au début, il a même un grand problème parce qu'il est natif de Russie. Et donc, comme il se trouve dans des pays qui sont en guerre contre la Russie, il va en prison, il est libéré, et finalement, il est renvoyé, et finalement, il va partir en Suisse. De la Suisse, en Angleterre, on apprend que le Rav Kook est en Suisse. On le fait venir en Angleterre pour qu'il devienne le rabbin de la communauté de Marsiké Hadat à Londres. Il l'accepte à une condition, c'est que dès qu'il pourra rentrer, dès que les portes se réouvrent après la guerre, dès qu'il peut rentrer en Israël, eh bien, il rentre en Israël. Et encore une fois, Yad Hashem, évidemment, est présente puisqu'il va se retrouver à Londres et c'est lui qui va être finalement le rouage qui va permettre la déclaration Balfour. Pourquoi? Parce que Lord Balfour, lorsque l'Angleterre va conquérir la Palestine pendant la Première Guerre mondiale en 1917, et que Lord Balfour veut faire sa déclaration Balfour, il fait un test sur les Juifs de Londres, qui lui disent « Ah, mais ça va pas la tête. Nous, on n'en veut pas, nous, on est des Anglais, on est des serviteurs de Sa Majesté, ma pitam !» Et donc, il a failli abandonner l'idée de la déclaration Balfour. Si les Juifs, ils veulent pas, ils veulent pas. Jusqu'à ce qu'on lui dise « Non, mais tu sais, il y a quand même un rabbin de Palestine qui est à Londres en ce moment, ce serait peut-être bien que tu lui demandes. » Et donc, Lord Balfour va aller voir le Rav Kook, qui va lui dire que c'est non seulement une bonne chose, mais que c'est une grande mitzvah, et qu'il participe ainsi à la réalisation de la promesse des prophètes. Balfour, en bon protestant, anglican, eh bien, il est fan de cette réponse, et il va donner la déclaration Balfour. Donc, évidemment, Yad Hashem est dans cette situation, et bien évidemment. Après, en 1921, il rentre en Israël. Il devient le grand rabbin de Jérusalem, et en vérité, le grand rabbin de Eretz Israël, nommé par le mandat britannique. Il est le premier grand rabbin de Eretz Israël. Il crée, hein. Alors, pas consistorial parce que c'est le Rav Kook qui crée le grand rabbinat d'Israël. C'est-à-dire qu'il est nommé après que c'est lui qui a créé l'organisation. Pas comme... Non, j'entends bien, mais le consistoire, l'idée consistoriale a été créée par Napoléon. Et après, il a nommé aussi un rabbin. Là, l'organisation du grand rabbinat d'Israël n'est pas demandée par les Anglais. Il est créé par le Rav Kook, et donc, comme les Anglais sont eux qui gèrent en Israël, ils ont besoin de reconnaître également le rabbin en question. Donc le Rav Kook est le premier grand rabbin de Eretz Israël Ashkenaz. Le premier grand rabbin de Eretz Israël Sepharad, c'est le Rav Arishon Etzion. Eh oui, hein, ça peine, hein. Arav, Agaon, Yaakov, Meir. Rav Yaakov Meir, et tous ceux qui font la tête, oh, tiens, un nom intéressant, je vous invite à aller retrouver sur ma chaîne YouTube le cours que j'ai fait il y a quelques temps sur le Rav Yaakov Meir. Car les lundis soirs, je donne un cours sur des personnalités, et l'un des personnages que j'ai évoqué, c'est le Rav Yaakov Meir. Je vous invite à aller voir, ça vaut le détour. Pas à cause de mon cours, mais à cause du personnage. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il donc revient à Jérusalem. Mais c'était en 1921, la première édition, nous dit le Rav Tzvi Yehuda. Il n'est où Choser ou Mofia, il y a une deuxième édition de Horot, Atta Bishnata Ketoret. Bishnata Ketoret, c'est 1949. Et là, regardez comment est-ce que le Rav Tzvi Yehuda appelle cette année 1949. Tenez-vous bien, parce que c'est la phrase la plus compliquée de l'introduction. Imreshit Giluya Shel Romemut Yemin Elion Le Geulat Amo Venachalato Ve Yeshuat Meshicho. Même quand tu comprends l'hébreu, tu n'as rien compris. Alors,
avec un début de dévoilement.
Alors, littéralement, voilà. Avec le début du dévoilement de la grandeur de la droite élevée pour la Géoula de son peuple, de son héritage et la délivrance de son Messie.
Alors, on peut dire que c'était peut-être une période qui était propice à tout ça.
Non, lui, il dit c'est l'année 49. L'année 49, c'est ça, c'est le début du dévoilement de la grandeur de la droite élevée pour la Géoula de son peuple et l'héritage et la délivrance de son Mashiach.
La déclaration, elle a été
Ah oui, c'est pour ça que je me pose ça comme question, mais pourquoi il dit ça en 1949? S'il m'avait dit ça en 1948, j'aurais compris. Mais il dit ça en 49.
Pourquoi?
Ah ben, bah, il va falloir comprendre. Que s'est-il passé en 1949 qui est tellement important aux yeux du Rav Tzvi Yehuda Kouk? Tu as raison que la fin de la guerre d'indépendance, c'est en 49. Mais c'est pas ça. Parce que finalement, la victoire fait retentir ce qui s'était passé en fait en 48. Elle a confirmé la déclaration d'indépendance de 48.
Le nombre de
habitants, c'est 100 000. Non, on était déjà à 600 000 en 48.
Non, je dis que cette période-là, le début du XXe siècle, avec les guerres, avec tous les mouvements qui se sont passés, la libération, etc., c'était, on ne sait pas pourquoi, propice à tout ce dévoilement.
Tu as tout à fait raison. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le dévoilement des temps messianiques, mais lui, il parle spécifiquement... Oui, mais là, il te parle spécifiquement de l'année 1949. Non, ça a déjà commencé bien avant. Les Juifs du Yémen ont commencé à venir à la fin du 19e siècle.
D'abord,
c'est 46. Mars 46. Je vais vous dire ce qui s'est passé en 1949, à part la fin de la guerre. Il y a eu un événement qui s'est passé en 1949. Et d'ailleurs, pas stable en 1949, mais dans un jour très particulier, qui jusqu'à aujourd'hui est tous les ans fêté dans l'endroit.
Ah, le Matmout ?
Non. Non plus. Bon, il y a beaucoup de journées dans la nation. À Tou Bishvat, 1949, la Knesset est passée à Jérusalem. Elle était à Tel Aviv. Pourquoi elle était à Tel Aviv? À cause de la guerre. Et comme il y avait la guerre, eh ben, Jérusalem était sous siège, machin, tu ne pouvais pas avoir le gouvernement à Jérusalem. Donc, depuis la création de l'État d'Israël et jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à Tou Bishvat, donc un mois après la fin de la guerre, eh bien, la Knesset était à Tel Aviv. Elle est passée à Jérusalem à Tou Bishvat 1949. Le Rav Yehuda nous dit, le fait que la Knesset passe à Jérusalem, c'est Giloui Romemut Yemin Elion, le Geulat Amo Venachalato et Yeshuat Meshicho. Pourquoi? Eh bien, parce que si la Knesset, le Parlement, c'est-à-dire l'institution de l'État, se trouve à Tel Aviv, de facto, ça veut dire que la capitale, c'est Tel Aviv. Je ne parle pas d'économie, je parle d'institution gouvernementale. Si le siège central de l'État est à Tel Aviv, ça veut dire que la capitale est à Tel Aviv. Maintenant, si tu dis que la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv, eh bien, ça veut dire, c'est très bien Tel Aviv, mais ça veut dire Tel Aviv est né en 1909. La ville de Tel Aviv est née en 1909. Donc, si tu dis que la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv, eh bien, ça veut dire que l'État d'Israël n'est en fait qu'un pays occidental européen né au XXe siècle dans le Moyen-Orient. C'est bien, mais ça ne fait absolument pas la référence et la continuité d'une identité quadrimillénaire. Alors que si tu dis que la capitale est à Jérusalem, que Am Israël a créé Medinat Israël avec pour capitale Yerushalayim, ça veut dire que l'État d'Israël de 1948 est la suite de Malchut David Ushlom, de la royauté de David et de Salomon. Donc en cela, c'est véritablement le début du dévoilement de Yamin Elion pour la Géoula de son peuple et le dévoilement du Mashiach. Ok ? Ensuite, le Rav nous dit « Leumat atzorech hamamashi » dit « Il y avait un besoin réel de ressortir le livre, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, il fallait que je ressorte. « Beitratshut otsaato shel sefer acharei asher ze kama azal veravta adrisha le'asigo » dit « Il n'y avait plus de livre et les gens en demandaient, donc il fallait le réimprimer. « Magbil v'mechaven hu achiyub ameyuchad be'achzara et nedara » זו עתה על פני מערכת איתנים של קוממות ירושלים וממשלת ישראל, המשתעכבת ועולה לגאולתנו ופדות נפשנו. C'est-à-dire que le Rav Kook nous dit, non seulement il y avait un besoin concret, il n'y avait plus de livres, mais en plus, maintenant que je le ressors, eh bien, le fait que ça aille de pair avec la construction d'un État comme capitale Jérusalem, eh bien, ça va donner aux enseignements de ce livre beaucoup plus de poids, de tokef. Après, il te dit, Bepkudat Baal Aorot Zatzal. J'ai rempli une demande de mon père. Il m'avait ordonné de faire quelque chose. Beacharit Shenotav, à la fin de sa vie, Badakti va Matti al Matkonam et Psuke a Mikraot va Mahamarot Razal. Asher Mikoma Beotza Arishona, Kefi Shetef a Yetzira Mikori, Yesh Shelo a Yumedu Yakim, Kavayatam Bimkoma. Il dit, le Rav Tzvi Yehuda, j'ai fait ce que mon père il m'a demandé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai corrigé les erreurs que mon père avait mis, sans en faire exprès, dans la citation des versets ou des enseignements de nos sages. Il dit parce que mon père, il n'écrivait pas avec des livres autour de lui. Il écrivait avec ce qu'il avait là-dedans. Et des fois, il sortait un enseignement d'un Mahamar de Chazal, et il y a un mot qui, au lieu de dire « al », il a dit « im » ou un truc comme ça, genre, il y a un mot, une lettre, une virgule, qui n'a pas été exactement comme ce qui était marqué. Alors, il m'a demandé, mon père, vous savez, et il m'a demandé, vérifie toutes mes citations et corrige là où il y a besoin de corriger. Ça ? Et après, il dit, et en plus de ça, « Gam tzirafti besof ha-sefer reshimat marim mekomot shel ha-psukim ve-ha-ma'amarim » Il y a le Rav Kook qui pense que quand tu le lis, tu sais tout ce qu'il va citer. Tu sais d'où ça vient, ce truc. Donc, il ne te met jamais les sources. Il ne te dit jamais, ça, je l'ai pris d'eux. Donc le Rav Tzvi Yehuda, il a tout simplement fait des annotations et à la fin du livre, tu as la liste de toutes les sources d'où ça vient. C'est sympa. Parce que bon, en vrai, on n'est pas au niveau du Rav Kook. Donc nous, on ne sait pas exactement d'où viennent toutes les citations qu'il va nous donner. Mais ça a l'air. Donc il y a des gens qui ont fait la chimie de Marim et comment j'ai la psukim vers ma marim. L'île Shonotem, comme Oshem, Vechelek Mehem. לכיוון עיניהם והמשיכם. לפי רעתו הנכונה של גיסי, יקירי, הרב, רבי אברהם יהושע אונטר שליטה, אשר ידיו רב לו וזכותו בכל מפעל הוצאת כתבי קודשו של האמור הרב זצ"ל, נוקדי, יא אגלמון קלקן כמה בוגו ידי סימון בופר, והוספתי בזה את למהלך הידיעות בישראל. תדעי, דורסת נובה לדיסיון קילנות, j'ai rajouté après le livre d'autres textes de mon papa qui sont dans le même dans la même ambiance. Et donc, je les ai mis là. Par exemple, les Ma'alach et Ideot B'Israël. Alors, on y arrivera, je ne sais pas quand, mais on y arrivera. Ezrat Hashem, c'est un petit texte de quelques chapitres où, en fait, le Rav Kook nous explique comment, à travers l'histoire du peuple juif, Dieu se dévoile à ces moments-là comme ci et à ces moments-là comme ça. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Shacharei pirsumo arishon beshavuot ha'ivri al yedei harav Rabbi Meir bar Ilan zatzal. Beshana tavreshayin bet nitpas beigot reiya otza arishona u metziuto yekara. ça que je l'ai mis ici.
5672.
On est en 5781. Ok? Non, Tavresh, c'est 1800. 1860. Donc, Tavresh, Aïn, tu rajoutes 70.
C'est 5672.
Non.
Et on est en 1781.
Donc, oui, c'est à peu près 70 ans. Ensuite, il termine en disant Vegam et Orot Israël. J'ai rajouté également Orot Israël qui nous raconte ce sont des piscaotes qui parlent cette fois de la grandeur et l'identité du peuple d'Israël. Ça aussi, je l'ai rajouté. ועוד הוספתי בינתיים את פרקי הזירעונים שהודפסו בשבוע ובשעתם בקובץ התרבות הישראלית. זירעונים, c'est des petits, on va dire comme ça, c'est des petits enseignements sur la période. Des petits trucs comme ça. OK? Donc ça aussi, je vais rajouter. שהיה לבאז בפרצת המלחמה של שנת תברש הינדל. לכל אלה, גם כן, שני התיקונים הנ"ל לפסוקים ולמאמרי חז"ל שבהם כל אלה יחד משלימים ומתמימים את הופעת האורות האלה בכל שגב קודשם ומלוא שכלולם. C'était pas étudié à cause de la guerre. Donc c'était perdu et il fallait le remettre. OK? Et donc, termine le Rav en disant comme ça. Le Rav Yehuda termine son introduction en disant Mimekor מזרע האור הגדול, לעומת התחדשו בדבר צור ישראל וגואלו, מלך עולמים הצדיק בכל הדורות, על ציון וירושלים ומקריהם, ומצוות תורתן, ינסה ויראה בכל תוקף נצרו, ועוז תפארתו לעיני כל אפסי ארץ, תבל ויושבי בה. ודיל הרב צבי יהודה, finalement, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? Dans cette introduction, que l'enseignement de ce livre, eh bien, c'est pour quoi faire ? C'est pour expliquer à tout le monde la dimension de Tzur Israël Vegoal. Qu'est-ce que c'est Tzur Israël Vegoal ?
C'est Baruch Hu qui
est le libérateur.
C'est quoi Tzur Israël ?
Tzur
Ami. C'est qui ? C'est un des noms de Dieu, Tzur Israël. Il ne faut pas l'oublier. Tzur Israël, c'est un des noms de Dieu. Chav les Sfaradim, ils ont un peu plus de mal de se le rappeler. Pourquoi ils ont plus de mal de se le rappeler ? Parce qu'ils ne le disent pas dans la Tfila. Mais les Ashkenazim, ils disent dans la Tfila, juste avant la Hamida, juste avant de dire Shem, Sfata et Tiftar, machin. Comment toi tu termines les brachot le matin ? Non, tu termines en faisant Mi Chamocha, Bahim Hashem, Mi Chamocha, Nador Bakodé, Nora Delot Sefele. Ensuite, il dit quoi ? Pas. Comment tu dis? Quoi? Vous priez pas le matin? Aïe. Oui, mais comment? C'est quoi la phrase? Je veux pas que Baruch Ata Hashem Gal Israël. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase. Les Ashkenazim aussi disent Baruch Ata Hashem Gal Israël. Aïe, va, oui. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופנה קינומך יהודה וישראל, ונאמר. וואלה. צריך כאילו, זה שאני אומר, אני רוצה להגיד, אני צור ישראל, זה הקדוש ברוך הוא, זה מי. אה? אוי, יפה. אוי, שבת, אוי, צור ישראל. נכון. Alors, צור ישראל, c'est un des noms de Dieu. Ça vous vous rappelez de la grande machloquette terrible qui a eu lieu quelques heures avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, à cause de Noussach de la déclaration d'indépendance. Qu'est-ce qui devait être marqué dans la déclaration d'indépendance ? Eh oui, grosse machloquette surtout, hein, évidemment. Et une des grandes points de désaccord, c'était est-ce qu'on met le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance ? Les religieux, le Rav Maïmon HaKohen, il a dit, si vous ne mettez pas, moi je ne signe pas. C'est évident que c'est Yad Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu, 2000 ans d'exil. Et les pas religieux, ils ont dit, si vous mettez, on ne signe pas. Non, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont glissé un nom de Dieu que les pas religieux ne connaissent pas.
Sour
Israël. Puisque c'est marqué dans la Tfila. Bon, certes, dans Sefer Yoel également, mais c'est pas... Et vu que les pas religieux, ils avaient arrêté de faire la Tfila. Donc, ils ne savaient plus qu'il y avait marqué Tzour Israël dans la Tfila. Et donc, ça ne les dérangeait pas. Ils pensaient que Tzour Israël, c'était un truc comme ça, très, très sympathique. Donc, finalement, dans la déclaration d'indépendance, nous avons Bebitachon Betzour Israël. C'est pas oublié ça. Et également dans Birkat Amedina, du Rav Herzog, que nous on dit chaque Shabbat, il a plein de noms. Chaque nom révèle un dévoilement différent du divin. On pourrait citer plusieurs noms. Celui qui est le créateur de la nature, c'est...
Toute la Torah, c'est le nom de Dieu.
Oui, mais il y a des fois où il se dévoile par des noms particuliers. Par exemple, quand il y a marqué dans la Torah Elohim, c'est le... On va voir par exemple dans le deuxième chapitre de la Torah, eh bien, c'est celui qui se dévoile au travers de cette nature. Quand on parle de Adonai, c'est celui qui montre qu'il est le patron. Ok, la Adnout. Quand on va voir Shaddai, c'est celui qui promet... fait des promesses, particulièrement dans le domaine de la descendance. Quand on parle, je ne sais pas moi, de Hachem Tsevaot, par exemple. Hachem Tsevaot, c'est le dieu de la guerre, c'est-à-dire de la royauté. Ok ? Bagalout, comme on n'avait plus de dévoilement, on l'a appelé avec un nom philosophique. Akadosh Baruch Hu.
Le dieu de la guerre, ça sonne un peu mal. Non ?
Pourquoi ?
Ouais. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est par essence... Shalom.
Ouais, Vega, Vega, Milchama.
C'est pas
Gam Milchama. Tu dis aussi dans la Tfila, Baal Milchama.
C'est la perception.
J'entends bien. Mais je t'invite à garder ta question lorsqu'on arrivera à la partie Oroth à Milchama. Et tu verras si tu as encore la question.
C'est-à-dire
faut y aller.
La perception.
Je comprends bien sûr. Donc, Akadosh Baruch Hu.
Comprends, lui il nous bénit par le shalom.
Mais j'entends bien. Mais des fois pour faire la guerre d'abord.
C'est pas mal à sortir faire de philosophie. La vie c'est une guerre. C'est une guerre à soi-même d'abord. Et bien sûr les mauvais.
Non. S'il y a besoin de faire la guerre, on est capable de la faire. Mais qui était au Bagalout, comme on n'avait plus de dévoilement de Dieu, eh bien on l'a appelé par un concept philosophique. Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh ou Baruch, le transcendant, c'est l'émanant, quelque chose qu'on ne comprend pas de toute façon. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu revient et amène la Géoula, c'est-à-dire ramène le peuple d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil, et Mekim et Medinat Israël, ça s'appelle Tzour Israël. Ok ? Tzour Israël, c'est donc le dévoilement divin lorsqu'il amène la Géoula et qu'il reconstruit l'État d'Israël.
Tzour, c'est le rocher. Quelle relation entre le rocher et ce que...
C'est immuable. C'est immuable. Ça ne bouge pas. Ah. Donc, une fois qu'on a dit ça, il nous dit que c'est-à-dire que la Géoula et donc l'État d'Israël va s'élever et s'imposer au monde de toute sa grandeur.
Tous les peuples.
C'est-à-dire tout le monde, pas que les juifs. Rolagouim, Tevel veYoshve va. Chamisha Asar be'av, Tav Shin Tet, 1949, Tzvi Yehuda HaKohen Kuk. Donc voilà, voilà le programme. Voilà ce qu'on va étudier ensemble. Mais nous, quand rentrerons dans le premier chapitre de Oroth, la semaine prochaine, je vous invite simplement comment est-ce qu'on étudie le livre Oroth, regardez à quoi ça ressemble une page de Oroth. C'est dans mon livre à moi.
Ouais. Vous voyez que la café. Donc là, on voit que tu as du café en même temps.
C'est ça. C'est pas du café, mais non, mais j'en ai. La tâche est restée. Non. Top, à Strasbourg, on continuera la semaine prochaine.
Regarde, on va faire le...